Chers frères et sœurs, il nous est bon, il nous est nécessaire de réentendre régulièrement le sermon du Seigneur sur la montagne, et particulièrement cet évangile des Béatitudes, parce que le Christ y concentre son enseignement spirituel, son enseignement moral, et la façon dont il nous propose le chemin de sainteté évangélique qu'il nous propose. Donc il ne s'agit pas seulement d'être rassuré, consolé, parce que cela nous fait du bien d'être appelé au bonheur, mais il s'agit d'essayer d'en percevoir toujours mieux le sens profond. Pour cela, je vous propose de nous laisser interroger de trois façons par cet évangile des Béatitudes. Première question que nous avons à nous poser. Quelle image avons-nous du bonheur auquel nous sommes appelés? Nous portons tous, les philosophes, les spirituels depuis l'Antiquité, même avant le Christ. Remarque que tous les hommes cherchent le bonheur. Mais encore faut-il savoir en quoi nous le mettons. À quel bonheur, à quelle béatitude sommes-nous appelés? Est-elle pour ici-bas seulement? Est-elle pour le ciel seulement? En tout cas, une chose qui peut-être nous fait défaut, nous manque, c'est de recevoir, de réaliser l'ensemble du message de la parole de Dieu sur la béatitude à laquelle nous sommes appelés. Nous autres chrétiens, si nous avons reçu la parole du Seigneur, nous n'avons aucunement le droit de douter de où nous venons et de vers quoi nous allons. Nous n'avons pas le droit de penser ni de dire que nous ne savons pas vers quoi nous allons. La parole de Dieu, depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, ne cesse de nous le dire. Et quelquefois, nous regardons à côté, nous n'entendons pas, nous ne recevons pas. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, chacun de nous absolument, réellement, de toute éternité. Et il nous a proposé ici-bas un chemin pour le rejoindre lui-même et participer à ce qu'il est, à sa propre béatitude, à son propre bonheur, à sa joie. Et nous savons que non seulement notre âme y est appelée à notre mort terrestre, mais qu'au jugement dernier, notre corps et l'ensemble de la création seront refaits, renouvelés entièrement, pour que toute la création de Dieu participe pleinement à sa propre béatitude. Ce qui nous pose une autre question. Quelle image avons-nous de Dieu? Quelle idée nous faisons-nous de Dieu lui-même? Et pourtant, la parole de Dieu ne cesse de nous le dire, en même temps du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, Dieu, absolument transcendant, absolument saint, absolument parfait, et la communion éternelle de don dans l'amour du Père au Fils et du Fils au Père dans l'Esprit. Et nous devons savoir, nous devons croire que nous venons de là, que c'est le sens même de chacune de nos personnes, que c'est le sens même de nos différentes formes, degrés de communion humaine, et que nous sommes appelés à participer à l'échange d'amour qui fait la joie éternelle du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint. Il n'y a pas d'autre béatitude. Elle surpasse ce que nous pouvons imaginer et comprendre, mais permettez-moi de le dire sous cette forme-là, qui n'est peut-être pas tout à fait juste. Nous n'avons pas le droit de l'ignorer. Nous n'avons pas le droit de ne pas y croire, car c'est cela qui donne sens à toute notre vie. Deuxième question que nous pouvons faire nôtre pour progresser sur le chemin de la sainteté évangélique, qui a pour but notre participation au propre bonheur de Dieu. Quel est le sens du chemin de sainteté, de conversion que nous proposent les béatitudes ? Parce qu'il ne s'agit pas d'une espèce de collection de vœux pieux. Il s'agit d'un chemin de sainteté que toute la tradition de l'Église ne cesse de méditer, qui est déjà présent d'ailleurs dans l'Ancien Testament. De ce chemin de sainteté que les béatitudes nous proposent, je retiens deux choses. D'abord, la première béatitude. La première béatitude est la première marche d'un chemin qui nous mène à la vie, participer avec Dieu comme étant ses héritiers, ses enfants, ses fils et ses filles. Cette première marche est la porte d'entrée et la condition de tout notre chemin spirituel, selon l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Cette première marche, sine qua non du reste de la conversion évangélique, c'est celle de l'humilité. Et nous l'avons entendu déjà dans la première alliance. Le peuple que Dieu veut former, parce que c'est le peuple qui peut le recevoir. Ce n'est pas un peuple nombreux et triomphant, sûr de lui et glorieux. C'est le peuple qui cherche Dieu et non sa propre gloire. C'est le peuple qui est le pauvre et petit reste d'Israël qui marche dans l'humilité et la justice. Car, frères et sœurs, le bonheur auquel nous aspirons, qui est inscrit au plus profond de notre être comme la marque même de Dieu, nous ne pouvons pas l'acquérir par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le fabriquer par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le mesurer, le déterminer par nous-mêmes. C'est d'ailleurs cela la faute originelle de nos parents Adam et Ève. Ils ont voulu, et nous voulons avec eux à chaque fois que nous nous détournons de la sainteté chrétienne, mesurer nous-mêmes, fabriquer nous-mêmes notre propre bonheur. C'est tragique, parce que non seulement nous nous faisons un bonheur bien plus petit que ce que Dieu nous propose, et surtout parce qu'alors nous restons enfermés en nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder à la vraie béatitude. L'humilité est la condition sine qua non de toute sainteté chrétienne. Elle consiste non pas à se dénigrer soi-même, mais à être capable de reconnaître le peu que nous sommes et de recevoir. recevoir de Dieu, recevoir des événements par lesquels il nous forme dans notre vie, il nous conduit, recevoir de nos frères et sœurs à travers lesquels il nous aime et il nous parle. Deuxième caractéristique du chemin des béatitudes, si vous le relisez tranquillement, attentivement, il a pour particularité de s'attaquer d'abord à la racine de notre cœur. Il vise d'abord notre cœur, qu'il faut convertir à l'amour, qu'il faut purifier, qu'il faut adoucir. Mais il ne s'arrête pas là. C'est un chemin d'élargissement et d'élévation où nous sommes appelés non seulement à recevoir l'amour transformant de Dieu dans notre cœur, mais à en être instrument, à le partager autour de nous, à être unis à nos frères, à rechercher la justice, la paix, la miséricorde. Autrement dit, la sainteté chrétienne n'est pas seulement celle de notre âme, de notre cœur à soi tout seul. Non, il s'agit, à partir de la racine de notre cœur, de vivre, d'être élargi à toute la communion de l'amour de Dieu qui veut rassembler les hommes dans son amour. La béatitude éternelle, frères et sœurs, fera que nous serons personnellement entièrement comblés de bonheur, mais que nous le partagerons, ce bonheur, nous serons unis à tous nos frères avec eux et nous en prenons le chemin dès ici-bas. Dernière question que nous pouvons nous poser. Comment cette conversion évangélique, comment ce chemin de sainteté nous est-il possible ? Il excède nos forces. Il est bon, il est juste de le reconnaître. Saint Paul nous le dit de la manière la plus claire qui soit possible. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. La sainteté évangélique, nous ne pouvons la recevoir, nous y convertir qu'en vivant dans le Christ, en lui. Il est lui-même notre chemin. Il est lui-même notre sainteté. Toute l'œuvre des sacrements, de l'écoute de la parole de Dieu, du sens de toute la liturgie de l'Église, de tous nos enseignements, c'est cela, de nous conduire à vivre dans le Christ et à recevoir de lui en le suivant, en l'imitant, en partageant sa vie, notre sainteté. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, élargisse le désir de notre cœur de la béatitude éternelle et nous rende plus fermes pour en prendre le chemin en vivant dans le Christ. Amen.